Bonjour, Régis Coulange. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3. Et c'est maintenant. Bonjour Régis.
Bonjour Odile. Alors voilà, aujourd'hui je suis venu avec deux invités. Philippe Richardet, qui est membre d'Amnesty là, depuis un peu plus d'un an.
Bonjour.
Et Camille Coulange, qui est aussi membre d'Amnesty, très récente, mais qui est aussi ma fille. Et qui donc entend parler d'Amnesty depuis longtemps dans la famille. Voilà, et donc je suis très heureux de les accueillir tous les deux. Voilà, alors au sommaire, donc on va faire un petit débat avec Philippe et Camille, qui vont se présenter et dire un peu le pourquoi de leur engagement à Amnesty International. Et puis on va donner un peu des nouvelles des droits humains, l'actualité d'Amnesty, et qui est aussi l'actualité du monde. Hein. Parler d'un naufrage qu'il y a eu en Méditerranée récemment. Parler d'un militant en Arabie Saoudite. Un autre militant en Iran. On donnera des nouvelles de Biram, notre ami mauritanien. Et puis, on donnera quelques bonnes nouvelles, parce que Amnesty, ça marche. Et c'est bien de le dire. Et on terminera par des nouvelles du groupe et de la région et des projets que nous avons. Voilà le sommaire.
Eh bien, très bien.
Donc, bonjour Philippe, bonjour Camille.
Rebonjour Régis. On va honneur aux dames, on va laisser la parole à Camille.
Allez, bonjour. Donc, moi, je suis Camille Coulange. Je travaille à l'office de tourisme de Guillestre, dans les Hautes-Alpes. Et je fais partie d'un nouveau cercle d'action d'Amnesty International qui a été créé il y a à environ 2 mois. Et donc, du coup, on a commencé à faire quelques petites actions. Nous sommes 4 pour l'instant. Voilà, des actions de signature de pétition. Notamment pour la campagne des signatures là, pour 12 cas de personnes dont les droits de l'homme sont bafoués. Et voilà, donc c'est vrai que moi j'ai grandi donc dans cette connaissance du mouvement de par donc mon père qui est actif dans le mouvement depuis de nombreuses années. Et puis c'est vrai que on se rend compte que finalement, même si on a un petit peu de temps à consacrer, le fait qu'on soit plusieurs personnes peut avoir vraiment de bons résultats, même si on s'investit que de ce qu'on peut s'investir. Et ça, c'est important. Donc voilà, c'est une raison pour laquelle je m'investis dans cette association, dont pour moi les valeurs sont très très importantes. Voilà.
Donc c'est bien, c'est enfin ce petit groupe que voulait monter Nicolas Cucchetti, donc, hein, qui prend forme.
Oui, alors Nicolas,
c'est le même ou pas ?
C'est pas tout à fait pareil. Son désir, c'était de faire une antenne jeune.
Oui.
Voilà, donc c'est une antenne jeune, ça regroupait des jeunes pour faire des actions d'Amnesty. Là, un cercle d'action par rapport à un groupe comme le groupe de Digne, c'est une structure qui est beaucoup plus légère, puisque c'est pas une association en loi 1901. Par contre, c'est quelques personnes, il faut qu'il y en ait un qui soit membre d'Amnesty quand même, quelques personnes qui se réunissent et qui décident de temps en temps de faire de la visibilité pour Amnesty International. Mais par contre, comme il n'y a pas de trésorier, ils ne peuvent pas récolter de l'argent au nom d'Amnesty. C'est juste de la visibilité de notre mouvement. Et on propose ça justement dans des endroits où il n'y a pas de groupe, pour faire de la visibilité d'Amnesty International et pour permettre à des personnes qui veulent s'engager sans que ça leur prenne énormément de temps, mais qui veulent faire des choses à quelques-uns, de le faire. Voilà. Alors, ce que je voudrais demander à Camille, c'est comment a été perçue à Briançon et aux alentours la création de ce cercle d'action et votre première action pour les 10 jours pour signer.
Alors, la première action s'est déroulée à la MJC de Briançon. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de personnes qui sont passées, qui se sont arrêtées pour signer, qui nous ont vraiment dit qu'ils étaient très contents de savoir qu'il y a un cercle d'action qui se crée. Et en fait, qu'ils n'avaient jamais entendu parler de... Enfin, qu'ils n'entendaient pas vraiment parler d'Amnesty International dans 05 et que c'était très bien que ça se fasse maintenant. Donc voilà, les gens sont contents, même s'ils ne sont pas forcément impliqués pour faire partir du cercle d'action pour le moment. Mais dans l'ensemble, ils sont très contents qu'il y ait des actions qui se fassent et qu'il y ait un cercle qui naisse aux alentours de Briançon.
Voilà. Il y a eu un groupe, mais il y a très très longtemps. Il y a eu un groupe à Briançon, mais ça faisait très longtemps qu'il n'y avait plus rien. Et on avait repéré cette région... en se disant c'est dommage et on va essayer de faire quelque chose. Voilà, donc on a fait le cercle d'action le plus haut d'Europe. Voilà, alors j'accueille aussi donc Philippe que je connais depuis pas mal d'années et qui a accepté d'être membre d'Amnesty d'abord il y a un peu plus d'un an. Voilà, alors Philippe, peut-être tu peux nous dire un peu tes motivations pour nous rejoindre.
Oui, bien sûr, Régis. Alors d'abord, j'ai rejoint Amnesty. Pourquoi le choix d'Amnesty? D'abord parce que je connaissais Régis. Régis, je le connais depuis longtemps. Il a été l'instituteur de mes enfants. Donc ça laisse des traces un petit peu quand même. Et je savais qu'il s'occupait très activement d'Amnesty International. D'ailleurs, il en est le porte-drapeau dans le département. Et moi, je fais aujourd'hui le plus beau métier du monde. Je suis retraité. Et donc, quand on est retraité, on a du temps. On a du temps à consacrer. Et personnellement, j'avais envie, ce temps, de le partager à la fois dans un investissement, dans des associations qui luttent pour diverses choses. Je vous en parlerai peut-être un peu après. Et également d'avoir des actions plus pertinentes directement sur le terrain. Alors, pour les citer rapidement comme ça, je suis défenseur prud'homal. Je défends les gens, les salariés. Je suis bénévole au Restaurant du Cœur, voilà, et j'ai rejoint donc Amnesty International il y a un peu plus d'un an. Et là, un peu plus récemment, j'ai rejoint le groupe, puisqu'il y a un groupe à Digne qui s'appelle le groupe numéro 166, et qui a des actions plus directes. Alors, je ne sais pas si Régis va vous parler de ses actions. Moi, je vais vous dire un petit peu ce que je fais personnellement. La première fois que j'ai rejoint ce groupe, je me suis assis autour d'une table et je suis reparti avec un gros paquet d'enveloppes et plein de timbres poste. Je me demandais bien qu'est-ce que j'allais faire de tout ça, mais j'ai très vite compris parce que j'ai reçu des mails où, eh bien, il faut intervenir. Alors, il faut intervenir pourquoi ? Eh bien, ce sont les campagnes d'Amnesty International qui luttent, on le sait, contre la torture, contre la peine de mort, contre le viol, contre toute maltraitance humaine à travers la planète. Eh bien, on reçoit des mails d'urgence. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il y a en Iran deux, trois personnes qui sont condamnées à mort, qui vont prochainement être exécutées. Il y en a un autre, peut-être en Mauritanie ou en Turquie, qui a été incarcéré, on ne sait pas ce qui devient, il a complètement disparu. Et donc, il faut avoir une action de pression auprès de ces gouvernements. Alors, il y en a plusieurs d'actions de pression. Il y a les pétitions, on le sait maintenant, grâce à Internet. Mais il y a d'autres méthodes. Il y a en l'occurrence le courrier. Pourquoi pas ? Alors, on fait des courriers, de véritables courriers avec un timbre poste. Puisqu'aujourd'hui, ça a tendance un peu à disparaître. Les mails prennent le dessus. Eh bien, nous, on fait des courriers. Là, en venant, je viens de poster 12 lettres. J'ai écrit en Turquie, j'ai écrit en Israël, les autres, je ne sais même plus, à la limite. Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Parce que de la maltraitance dans le monde, il y en a beaucoup. Et donc, j'ai fait aussi donc, ce choix d'Amnesty. Je me suis retrouvé à Amnesty parce que ça ne sert à rien de rejoindre une association qui n'a que peu d'influence. Bon, ça peut être bien, pourquoi pas. Pierre Rabhi dit « il faut faire sa part du colibri ». J'entends bien, on fait tous notre part du colibri. Et mes 12 lettres, c'est une part du colibri. Mais c'est quand même mieux si on peut agir au sein d'une action qui a une résonance internationale. Et c'est vraiment le cas d'Amnesty, c'est une réalisation international. Alors, je pense que Régis vous expliquera beaucoup mieux que moi, puisqu'il a une ancienneté que je n'ai pas au sein de cette association. Il vous expliquera quelles sont les actions, qu'est-ce que l'on fait. Est-ce qu'il y a des retours? Parce que c'est souvent la question qu'on nous pose. C'est bien, vous envoyez des courriers à des présidents, à des ministres, etc. Mais y a-t-il un retour? Est-ce que ça sert à quelque chose? Ben, on va essayer un petit peu de vous le prouver tout à l'heure.
Oui, très bien. C'est bien d'insister sur ce courrier, parce que les pétitions, c'est important, bien sûr. Les pétitions en ligne, c'est très facile et c'est comptabilisé. On fait des saisies d'écran, on apporte toutes les listes avec nos pétitions papier aux ambassades. Donc, on fait pression comme ça.
Mais ça ne suffit pas.
Et c'est vrai que quand on envoie un ministre de la Justice, un président de la République, un directeur de prison, des centaines, des milliers de lettres venant du monde entier, comme les lettres de Philippe, ça a du poids. Et le prisonnier dont on s'occupe, même s'il ne reçoit pas les lettres, parce que des fois on écrit aussi pour soutenir la personne, on écrit aussi au prisonnier, même s'il ne reçoit pas les lettres, si on écrit aux autorités, il finit toujours par savoir qu'il y a des gens qui s'occupent de lui, il n'est pas oublié. Et à partir de ce moment-là, déjà l'espoir revient pour lui. Et on a des dizaines et des centaines de témoignages de prisonniers qui nous ont dit « Mais à partir du moment où Amnesty s'est intéressé à mon cas, à partir du moment où j'ai su que des lettres étaient envoyées aux autorités pour demander justice, pour moi, ma condition de détention a changé. J'ai été beaucoup plus considéré et puis souvent Amnesty m'a fait libérer. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est important et bon, ça a un peu surpris Philippe quand il est arrivé dans notre groupe et c'est vrai que bon, avec les moyens modernes de l'informatique, on écrit, on envoie beaucoup plus de courriers qu'avant. Moi j'ai commencé, on écrivait à la main notre lettre. Donc, il fallait mettre un carbone pour faire un double pour l'ambassade. Mmh. C'était long et fastidieux. Hein. Et c'est vrai que maintenant, bon, avec les traitements de texte, c'est très rapide. Mais on peut aussi ajouter à nos lettres des petits commentaires personnels. Pour, voilà. Et ça a du poids. Voilà. Et puis, bon, je ne sais pas comment tu as ressenti, Philippe, ta première réunion, mais on s'entend bien, c'est une bonne ambiance et c'est important aussi que on traite de sujets graves, mais quand même en gardant une certaine bonne humeur.
Oui, bien sûr, il y a une chaleur humaine. Alors vous savez, quand on partage un même objectif déjà, hein, les choses sont beaucoup plus faciles. Il y a une entente, je ne vais pas dire une fraternité parce que c'est pas peut-être pas jusque là, mais ça peut se créer. Effectivement, ça peut se créer. La fraternité se crée autour d'un objectif, d'un idéal commun. Et là, il y a un idéal qui est effectivement la lutte contre les maltraitances d'une manière générale à travers le monde. Et c'est bien ça. Et on s'aperçoit très vite, vu le nombre de courriers qu'il faut faire, on s'aperçoit très vite que des maltraitances, il y en a beaucoup. Alors il faut savoir aussi une chose que, bon, nous on est dans ce groupe, on intervient de cette manière, mais finalement, n'importe qui peut intervenir tout le temps. Il suffit d'aller sur le site d'Amnesty International, on tape Amnesty sur un moteur de recherche quelconque, je ne ferai pas de pub, et puis on rentre sur le site et là on signe des pétitions en ligne. C'est très simple, tout le monde peut le faire, c'est très facile. Et plus il y en a, il faut cet effet de masse, et plus il y en a, plus c'est efficace.
Voilà. Donc mes deux invités sont des membres récents d'Amnesty International, bien qu'ils étaient sympathisants depuis très longtemps. Et ça correspond un petit peu à l'élan qu'on a donné depuis 2 ans. On a beaucoup investi, Amnesty France, pour recruter des membres, pour être plus nombreux, parce que plus on est nombreux, plus on est fort, et plus on peut faire évoluer les situations personnelles, mais aussi on fait évoluer le droit international, hein, puisque je vous rappelle qu'Amnesty est... Et a porté la création de la Cour pénale internationale, a beaucoup travaillé pour qu'il y ait un traité sur le commerce des armes. Vous voyez, toutes ces avancées juridiques, on a beaucoup travaillé là-dessus pour que les pays ratifient les traités, la Convention internationale pour le droit des enfants, voilà. Donc on fait aussi un gros travail de pression, de lobbying pour protéger les gens de la violence du monde. Voilà, donc c'est un peu le symbole, là, mes deux invités. On est passé en un an de 20 000 à 30 000 membres en France. Donc voilà, c'est un élan pour que de plus en plus de monde vienne nous rejoindre. Voilà, pour être plus nombreux, plus forts et ne pas laisser. Parce que si on laisse les politiques seuls faire ce travail, ça se fera pas qu'avec eux. Il faut faire des pressions et c'est chaque personne sur Terre se rendant compte qu'on fait partie de la même terre, que chaque personne peut agir et Amnesty nous donne justement ce moyen d'agir.
Est-ce que par rapport aux événements récents du début d'année, il y a eu plus d'investissement de la part des gens qui connaissaient peu Amnesty par rapport à la liberté d'expression bafouée dans de très nombreux pays? Est-ce que ça a provoqué un élan supplémentaire ou pas?
Alors bon, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais c'est vrai que nous, on se rend compte, hein, anciens militants d'Amnesty, on se rend compte que de plus en plus, on a à écrire pour des gens qui sont emprisonnés simplement parce qu'ils ont exprimé leur opinion sur des blogs.
Oui, c'est ça. Il y a de plus en plus de personnes qui sont condamnées pour ce qu'elles ont dit. Sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur cette nouvelle facette finalement de l'expression et ces nouveaux outils, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrêtées à cause de ce qu'ils ont pu dire sur Twitter, sur Facebook et tout ça. Donc c'est que la liberté d'expression, ça reste quand même une des raisons fondamentales qu'Amnesty tente de défendre finalement. Oui.
Alors effectivement, j'interviens là-dessus sur ce sujet parce que c'est un sujet qui est passionnant. Et ces événements ont été bien sûr dramatiques, mais ils ont provoqué quelque chose d'assez extraordinaire dans notre pays. C'est un immense élan fraternel. Mmh. Une fraternité. La fraternité est un mot qui est complètement tombé en désuétude depuis longtemps. On a tendance même à trouver ça un petit peu ringard. Mais là, il y a eu cet élan fraternel parce qu'il y avait les éléments nécessaires à mettre en place cet élan fraternel. Il y avait un idéal commun qui est la liberté d'expression, qui venait d'être attaqué. Donc on atteint un idéal. Il y avait, alors la fraternité, on dit on est toujours frère, mais on est toujours frère contre. Et le contre, c'était le djihadiste. C'était celui qui vient à notre frontière là, et qui vient malheureusement nous agresser. Donc, il y a eu ce mouvement. Mais ce que je crains un peu, et ce qui est déjà en train de se passer, c'est que ça retombe très vite. Ça retombe très vite. Il y a eu le mouvement autour de « Je suis Charlie », ça a été extraordinaire. Mais regardons bien ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même déjà retombé. On est revenu dans un quotidien où le mot fraternité est immédiatement évacué, et on revient notre repli sur nous-mêmes. C'est quand même ça qui se passe. Donc c'est pour ça que je pense que ces associations, Amnesty, il y en a d'autres, bien sûr, il n'y a pas qu'Amnesty qui travaille sur ces sujets, ont un rôle majeur pour effectivement maintenir constamment cette pression et rappeler constamment, sans cesse, qu'il ne faut pas lâcher la prise. Il ne faut surtout pas, parce que sinon, c'est la fin et c'est l'ouverture à toutes les dérives dans le monde. Déjà qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Mais c'est encore plus. Alors évidemment, on imagine mal aujourd'hui Amnesty International intervenir par exemple auprès de Daesh ou d'Al-Qaïda. Ça paraît peut-être un peu compliqué. Je pense que les courriers n'arriveront pas. D'ailleurs, moi, j'ai pas eu l'occasion d'écrire encore à l'État islamique. Hein. Bon, je sais même pas si on a les adresses. Mais peu importe, il y a d'autres pays autour. Il y a l'Arabie Saoudite à qui j'ai envoyé des courriers il y a pas longtemps. L'Arabie Saoudite, qui, on le sait, a toujours joué un jeu un peu trouble. Eh bien voilà, il faut mettre une pression sur ces pays-là. Il ne faut pas lâcher, il ne faut surtout pas lâcher l'affaire.
Oui, puis je rajouterais que Amnesty International est très vigilant par rapport à la façon de réagir face au terrorisme, en général. Mm-hmm. Hein, parce qu'on a vu ce que ça a donné après le 11 septembre, où les États-Unis se sont érigés en porteurs du bien contre le mal. Mmh. Et en fait, où est le mal, où est le bien? Ça a donné Guantanamo, ça a donné beaucoup d'injustice, une prison où le droit était complètement hors circuit, où la torture a été pratiquée, validée, hein, on le voit maintenant.
La peine de mort.
La peine de mort. Et donc, on est très vigilant. On pense que les droits humains, ce n'est pas un problème, c'est la solution. Et que toutes les discussions d'État à État doivent tenir compte des droits humains. Parce que c'est là qu'est la solution. La solution, elle n'est pas dans le tout sécuritaire. Elle n'est pas dans le bien et le mal, les biens d'un côté, le mal de l'autre, hein, les boucs émissaires. La solution, elle est dans le respect des droits humains pour chaque homme, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit sa religion. Voilà.
Je pensais au film La dernière marche sur la peine de mort. Là. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Oui, bien sûr.
Ouais.
Voilà, donc après cette petite discussion, là, on va faire une petite pause musicale avec Dominique A.
On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché.
Retrouve Régis Coulanges pour la dignité.
Voilà, alors quelques informations que vous pouvez retrouver sur le site amnesty.fr. Il y a eu le 8 février 2015 un nouveau naufrage terrible en Méditerranée. Les navires de l'opération Triton qui sont dirigées par Frontex, qui s'occupe justement de la surveillance de l'Europe, aux frontières de l'Europe, était en maintenance, n'était pas sur place. Et il y a donc 400 migrants en tout, dont la plupart étaient de jeunes hommes originaires d'Afrique de l'Ouest, qui tentaient donc de traverser la Méditerranée à bord de 4 bateaux. Les trafiquants de migrants les ont gardés près de Tripoli dans l'attente de leur départ en mer. Chacun a dû payer 650 euros pour la traversée. Les bateaux étaient équipés de moteurs de faible puissance. Ils n'avaient pas assez de carburant pour la traversée. Dès le lendemain matin, il était clair que ces personnes étaient en danger. Les gardes-côtes italiens ont reçu l'appel d'un téléphone satellitaire l'après-midi du 8 février, à environ 200 km au sud de Lampedusa, et à seulement 74 km au nord de la Libye. L'appel était difficile à comprendre, mais les mots dangereux en anglais ont été compris. Les gardes-côtes ont compris que les migrants naviguaient vers leur mort, surtout en fonction des prévisions météorologiques qui étaient très mauvaises. Selon les survivants, environ 300 personnes sont mortes, exposées à des températures proches de 0 degré pendant plus de 2 jours à l'appui, sans parler des vagues très importantes de 8 mètres de haut qui les ont submergées. C'est très dur donc pour les gardes-côtes, pour les responsables italiens qui vont porter secours à ces personnes. Et voilà le témoignage d'un des rescapés. Il s'appelle Ibrahim, il est originaire du Mali. À environ 19h le dimanche, le bateau a commencé à perdre de l'air et à se remplir d'eau. Des personnes sont tombées à l'eau. À chaque vague, 2 ou 3 disparaissaient. L'avant du bateau se levait et les personnes placées à l'arrière du bateau tombaient à l'eau. À un moment, nous n'étions plus que 30 personnes à bord. Nous sommes restés à nous cramponner à bord, toute la nuit. Il pleuvait. Au lever du soleil, 2 personnes manquaient. Le matin, nous avons vu un hélicoptère. Il y avait un tissu rouge dans l'eau. Je l'ai pris et j'ai secoué comme cela. Ils ont pu me voir. Ils ont jeté des petits bateaux gonflables, mais je n'avais pas l'énergie de les atteindre. Nous sommes restés. Une demi-heure plus tard, un cargo est arrivé. Il nous a fait monter à bord. Il était environ 15h le 9 février. Voilà, donc c'est toujours des drames terribles hein, pour ces personnes qui fuient la guerre, qui fuient le terrorisme, qui fuient la misère et on se doit de les secourir et ne pas laisser seule l'Italie s'occuper de ces migrants, mais avoir une politique commune de l'Europe pour tous ces réfugiés qui fuient les persécutions. Voilà, une autre nouvelle. Ben on en a déjà parlé à cette radio. Vous savez qu'en Arabie Saoudite, on a un blogueur, justement, on en parlait tout à l'heure, qui a été condamné à recevoir 1000 coups de fouet à raison de 50 coups par série tous les vendredis. Il en a reçu donc 50 début janvier. Et ça fait, sous la pression de l'opinion publique, ça fait 6 vendredis que la peine a été remise. Donc on demande que ce scandale, cette torture terrible soit enlevée et que cette personne qui n'a fait qu'exprimer ses opinions soit libérée. Devant de nombreuses ambassades en Arabie Saoudite, tous les vendredis, il y a une manifestation de gens qui demandent la libération de Raif. Et voilà. Alors l'Arabie Saoudite a condamné l'attaque contre Charlie Hebdo à Paris en la qualifiant d'acte lâche. Le lendemain, ses autorités ont flagellé Raif Badawi pour avoir exercé son droit à la liberté d'expression. C'est une hypocrisie qu'il faut absolument dénoncer. Donc nous devons les mettre dans l'embarras pour les forcer à réagir immédiatement. Alors n'hésitez pas, allez signer la pétition. Vous avez des tweets aussi que vous pouvez envoyer pour aider Raif et obliger les autorités saoudiennes à se mettre en conformité avec ce qu'elles nous disent. de soutenir la liberté d'expression, donc libérer Raïf. Voilà.
Alors effectivement, on voit bien la grande hypocrisie qui règne à travers ces pays, à travers ces États. C'est une farce, mais elle est sinistre, cette farce. Et c'est le cas de Raïf Badawi est typique parce que c'est vraiment... Il a été condamné à 1000 coups de fouet, comme l'a rappelé Régis, il en a reçu 50. Et effectivement, tous les autres vendredis, la peine n'a pas eu lieu, mais la peine n'est que reportée en fait. Elle n'a pas été levée définitivement. Donc il faut absolument maintenir cette pression, c'est extrêmement important. Sinon, il va reprendre ses coups de fouet et il en mourra. Parce qu'on ne peut pas prendre 1000 coups de fouet comme ça, c'est pas possible, on en meurt automatiquement. Donc il faut maintenir cette pression d'une grande force. Alors les États s'impliquent. Mais comme vous savez, l'Arabie Saoudite est une puissance pétrolière. Il y a des intérêts autres qui investissent énormément, notamment en Europe, en France, beaucoup. Donc, c'est compliqué. On doit ménager un peu la chèvre et le chou. Bien, nous, Amnesty ne ménage rien du tout. Le chou, on le donne à manger à la chèvre. Et on continue la pression, parce qu'il ne faut surtout pas la lâcher. Surtout pas, sinon Raïf Badawi est perdu.
Voilà. Un autre cas aussi emblématique, c'est le cas en Iran de Samam Nassim, qui est un mineur délinquant qui a été condamné à mort et dont l'exécution était prévue pour le 19 février au matin. Nous avons reçu une information comme quoi cette exécution n'avait pas eu lieu. Par contre, l'homme a disparu. On ne sait pas où il est. Sa famille ne sait pas non plus où il est. Et donc, on a des craintes très importantes par rapport à cette personne. Il a été condamné à mort en avril 2013 à l'issue d'un procès manifestement inéquitable par un tribunal pénal de Mahabad, dans la province de l'Azerbaïdjan occidental. Il a été déclaré coupable d'inimité à l'égard de Dieu et de corruption sur terre en raison de son appartenance présumée au parti pour une vie libre au Kurdistan, un groupe armé d'opposition kurde, et de son implication dans des activités armées à l'encontre des gardiens de la Révolution. Il était alors âgé de 17 ans. Donc déjà condamné à mineur de moins de 18 ans, à la peine de mort, c'est contraire à tous les traités internationaux, et notamment à la Convention internationale des droits de l'enfant, que tous les États ont signé, presque tous les États ont ratifié, à part les États-Unis. Donc voilà, c'est... Amnesty, on est tous opposés à la peine de mort, et d'autant plus appliquée à un mineur au moment des faits.
Amnesty est opposé, je le rappelle, pardonne-moi Régis, opposé à la peine de mort, quelle qu'en soit la raison. Ça, c'est très important. Même les crimes les plus horribles, les plus abjects, il n'y a pas de peine de mort pour nous. Pour Amnesty International, la peine de mort est quelque chose d'impensable, contre laquelle nous luttons, bien sûr.
D'ailleurs, quand on a beaucoup travaillé pour qu'il y ait une Cour pénale internationale, la Cour pénale internationale a été créée, un peu grâce à Amnesty International, et puis et d'autres aussi. Et cette Cour juge les crimes les plus graves qui sont faits dans le monde, enrôlement d'enfants soldats, crimes de guerre, torture... Et dans l'arsenal répressif, il n'y a pas la peine de mort. Donc on va juger les criminels les plus importants du monde sans appliquer la peine de mort. Voilà. Et dans d'autres cas, on peut appliquer la peine de mort dans certains pays simplement parce qu'on change de religion ou simplement parce qu'on a exprimé ses opinions de manière pacifique sur un blog. Voilà où en est la situation et pourquoi Amnesty est opposé fermement à la peine de mort, qui est un déni du droit de la vie, qui est la torture suprême. Il y a des prisonniers condamnés à mort qui attendent depuis 10, 15, 20 ans dans les couloirs de la mort. Dans certains pays, en ayant été très mal défendu, souvent ces condamnés sont... des personnes pauvres qui n'ont pas pu se payer des avocats brillants. Voilà, donc c'est une injustice, une torture, et on est pour un monde sans peine de mort.
Oui, d'autant plus que, bon, on va pas faire un débat maintenant sur la peine de mort parce que c'est pas le sujet. Encore que moi je rappellerai que il y a une récupération qui est aussi dramatique. Les événements qui ont eu lieu en France début janvier, eh bien, on s'est aperçu immédiatement qu'il y a une récupération derrière. Et il y a un parti politique que je ne citerai pas, mais que tout le monde va reconnaître, qui s'en est emparé et qui immédiatement a demandé un référendum sur la peine de mort. Voilà, alors que ce n'est absolument pas le sujet. Ça n'a rien à voir. Les djihadistes se fichent de la peine de mort. De toute façon, ils agissent en tant que martyrs. Donc ils savent très bien qu'ils n'en sortiront de toute façon pas vivants. Donc voilà. Donc il y a cette récupération qui est quand même extrêmement, que je trouve extrêmement gênante. Et puis, je repense à, on vient de voir dernièrement, on peut le voir sur le site d'Amnesty International, un prisonnier américain, dont j'ai oublié le nom, peut-être Régis va s'en souvenir, qui vient de faire 42 ans de prison. 42 ans de prison au cours de laquelle on s'est aperçu qu'il était innocent. 42 ans. Bon, déjà, sa vie est perdue. 42 ans de prison, je ne sais pas quel âge il a aujourd'hui, mais il a un âge vénérable, on va dire. Donc la grande majorité de sa vie est perdue. Mais si on avait exécuté cet homme-là, si on l'avait exécuté, on aurait encore une fois exécuté un innocent.
Comme il y en a eu énormément. C'est sûr que...
Bon, alors peut-être je vais donner aussi des nouvelles de Biram. Alors Biram, c'est le président d'une association de lutte contre l'esclavage en Mauritanie. Vous savez que la Mauritanie est classée au dernier rang concernant l'esclavage, puisqu'il y a encore l'esclavage tel qu'il se pratiquait au Moyen-Âge, où les personnes détenues en esclavage appartiennent au maître, et le maître a tous les droits sur eux et sur leurs enfants. Voilà, donc cette personne a créé une association qui s'appelle Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, IRA Mauritanie. Il y a une association IRA France qui soutient aussi ces Mauritaniens. Et Biram donc a reçu en 2013 le prix des droits de l'homme de l'ONU, après avoir reçu le prix Frontline Defenders. Donc il est reconnu comme un grand défenseur des droits humains au niveau international. Et il vient d'être arrêté en décembre 2014. Et il a été condamné après un jugement qui ne respectait pas les principes du droit. Il a été condamné à 2 ans de prison avec 2 autres de ses amis. C'est un vrai scandale parce qu'il ne faisait que protester contre l'esclavage de manière pacifique. Et Amnesty a fait une déclaration publique le 17 février 2015, donc tout récemment, avec tout un ensemble d'autres associations, pour demander la libération immédiate et sans condition de ces militants anti-esclavagistes et défenseurs des droits humains. Et je viens d'apprendre aujourd'hui, mais on craignait que ça arrive, ils viennent de se mettre à partir d'aujourd'hui en grève de la faim. Alors je vais vous lire leur courrier que j'ai reçu aujourd'hui. L'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste IRA Mauritanie informe l'opinion nationale et internationale que ses dirigeants emprisonnés à Aleg, Biram Dahabé, Brahim Bilal Ramdam et Djibi Sow ont déclenché une grève de la faim à partir de ce lundi 23 février 2015 dans la sinistre prison d'Aleg. Cette grève de la faim fait suite à la lettre qu'ils avaient envoyée aux autorités le 12 février et qui a pour motif la protestation contre les mauvais traitements, les abus qu'ils subissent depuis leur arrivée à la prison d'Aleg et les conditions sordides dans lesquelles ils se trouvent, qui ne sont pas en conformité avec leur statut de militants chevronnés des droits de l'homme et dirigeants couronnés par les plus grandes organisations internationales des droits de l'homme. En solidarité avec ses détenus à la prison d'Aleg, IRA décide d'entreprendre et d'organiser une série de manifestations et d'intensifier ses activités pacifiques. Voilà, alors sous l'autorité du président de la République, M. Aziz, qui se targue de lutter contre le terrorisme à l'extérieur, auprès de l'opinion publique internationale, des dirigeants du monde. À l'intérieur, il s'appuie sur les islamistes et les terroristes et condamne et fait condamner les défenseurs des droits humains. Donc c'est encore un double discours, hein. Ce qu'on veut montrer et puis la réalité des faits. Voilà.
Alors là encore, il y a une urgence. Il y a vraiment une urgence parce que ces militants qui sont emprisonnés en Mauritanie, on imagine bien ce que peut être l'univers carcéral d'une prison en Mauritanie. C'est pas le Novotel. Alors en plus, ils ont attaqué une grève de la faim, donc ça veut dire pour eux qu'ils sont en grand danger. Leur intégrité physique est en très grand danger. Ça veut dire que la pression doit être décuplée, centuplée. Donc j'invite tout le monde, j'invite les auditeurs à redresser l'index et appuyer sur le clic de la souris, aller sur le site d'Amnesty International et signer en masse la pétition justement pour la libération de ces militants.
Voilà, donc il faut vraiment faire pression et puis interpeller les autorités parce que le président soi-disant lutte contre le terrorisme, mais qu'est-ce qu'il fait dans son propre pays? Il y a une contradiction, un peu comme la contradiction des dirigeants de l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est deux discours contradictoires. On va faire une petite pause avec une chanson de Yannick Noah. Le même sang.
Un ange est tombé, un autre passe. Une page est tournée, même si rien ne s'efface. Quelle est ta blessure? Où est la mienne? Y a-t-il des douleurs qu'on mesure qui s'apprennent? Alors laissons aller. Je vis, je crie, je pleure, j'oublie, je marche, je danse, je tombe et j'avance. Et j'ai le même sang que toi. Je perds, je doute, je parle, j'écoute, je crois, je change, je plais ou je dérange. Et j'ai le même sang que toi.
Les mêmes questions, les mêmes doutes, un seul horizon. Alors laissons aller.
Je vis, je crie, je pleure, j'oublie, je marche, je danse, je tombe et j'avance. Et j'ai le même sang que toi. Je perds, je doute, je parle, j'écoute, je crois, je change, je plais ou je dérange. Et j'ai le même sang.
Voilà, le même sang que toi. On va vous donner maintenant quelques bonnes nouvelles. Hein. Grâce à vous, grâce à tous ceux qui ont apporté leur signature aux pétitions d'Amnesty, nous obtenons des résultats. Et c'est bien de les dire, hein, de voir qu'Amnesty, ça marche et que plus on sera nombreux, mieux ça marchera. Voilà, alors, par exemple, au Bahreïn, Nader Abdouleman, 41, a été relâché le 16 janvier 2015 après qu'une cour d'appel a décidé de réduire la durée de sa peine de 6 à 4 mois de prison.
Ensuite, c'est à Cuba que 9 opposants incarcérés par les autorités cubaines ont été libérés donc les 7 et 8 janvier suite à une mesure. Donc, cette mesure positive doit s'accompagner d'un nouveau programme relatif aux droits humains à Cuba, c'est ce que l'on espère.
Alors un petit tour en Égypte aussi maintenant, qui n'est pas non plus vraiment le pays des droits de l'homme, hein, on peut le dire. On risque rien ici. Le 28 décembre, la cour d'appel du Caire a réduit la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de la défenseure des droits humains Yara Salam et de la militante Sana Hamed Seif et de 20 autres personnes. Donc c'est une réduction de peine. Bon, ces personnes vont former un pourvoi en cassation auprès de la cour de la plus haute autorité judiciaire de l'État. Ça veut dire que encore un cas où il y a une demi-victoire, mais il ne faut quand même pas lâcher la pression.
Alors au Guatemala, on est tenace et dans notre lutte contre l'impunité. Et enfin, les familles de 37 personnes mortes dans un incendie lors d'une attaque contre l'ambassade espagnole de la ville de Guatemala en 1980 obtiennent un certain soulagement puisque la justice a finalement rattrapé un ancien policier de haut rang pour son rôle dans cet attentat. Voilà. À Amnesty International, on demande que les enquêtes soient faites chaque fois qu'il y a des crimes ou des malversations, des atteintes aux droits humains, que les personnes coupables soient pourchassées, condamnées. C'est ce qui se fait, vous voyez, 35 ans après, au Guatemala.
Donc ensuite, en Irlande, il y a une enquête qui a été proposée sur les foyers mère-bébé et qui est donc très encourageante, bien que d'autres institutions sont oubliées. Donc la décision du gouvernement irlandais de ne pas étendre l'enquête proposée sur les foyers mère-bébé au traitement réservé à des femmes et des jeunes filles ayant travaillé dans les laveries des sœurs de Marie-Madeleine est une occasion manquée de combler certains trous béants de l'histoire des violations des droits humains dans ce pays.
Voilà, cette histoire... il y a eu un film, je ne sais pas si...
Magdalene Sister, voilà. qui parlait de
qui parlait de ce fait.
Alors on va faire un tour par le Koweït maintenant et on va parler de Saleh Al-Moula. Alors qui est ce personnage? C'est un ancien député qui appartenait à l'opposition au Koweït. Déjà, appartenir à l'opposition au Koweït, il faut déjà pouvoir l'assumer. Il vient d'être libéré sous caution, ce qui est une victoire, le 11 janvier dernier par le tribunal pénal, mais il est toujours poursuivi. Pourquoi il a été poursuivi? Pas parce qu'il a fait des tweets, vous voyez, tout simplement. Là-bas, on va, alors soi-disant des tweets insultants, à l'égard de l'émir du Koweït, évidemment, là on touche au sacrilège, et du président égyptien qui était en visite dans le pays. Vous voyez que là-bas, rien que pour des tweets, on va en prison. Alors si c'était comme ça chez nous en France, les prisons déborderaient.
Déjà qu'elles débordent. Alors au Nigeria maintenant, c'est une grande victoire qu'on vient d'obtenir. Shell va verser finalement 55 millions de livres sterling aux victimes des fuites de pétrole dans le delta du Niger. Alors c'est une action qu'on mène depuis quelques années déjà. Vous savez qu'Amnesty a étendu son champ d'activité, pas seulement aux prisonniers d'opinion, mais à l'ensemble des violations des droits humains, et notamment les violations dans le domaine de ce qu'on appelle l'économie... Les droits civils, on s'occupait beaucoup de droits civils et politiques, et maintenant on s'occupe aussi des droits économiques, sociaux et culturels. Et dans ce cadre, on a fait une grande action sur le delta du Niger, parce que dans le delta du Niger, j'en ai déjà parlé à cette radio, Shell a pollué ce delta alors que les familles vivaient essentiellement de la pêche. Et bien sûr... on a fait pression pour que Shell reconnaisse la pollution qu'ils avaient faite, l'importance de cette pollution, et puis donc ils indemnisent les victimes, et puis on veut aussi qu'ils nettoient, qu'ils nettoient le delta pour que les gens puissent à nouveau vivre décemment dans leur pays.
Et donc maintenant, en nommant, toujours avec donc, cette possibilité de communiquer hein, sur Internet, malheureusement, donc, dans certains pays, comme en nommant, c'est réprimandé par les autorités. C'était le cas donc, de Saïd Jadad, qui vient d'être libéré sous caution. Voilà, il avait été accusé d'avoir enfreint la loi sur l'usage d'Internet. Voilà, son procès pour atteinte au statut et au prestige de l'État commencera devant un tribunal de Mascate le 25 janvier prochain. Voilà, il faut préciser que sa détention était dans des conditions déplorables, puisqu'il était dans une même cellule avec 22 prisonniers, une cellule infestée de cafards. Voilà, tout ça pour donc avoir, encore une fois, manifesté son droit à l'opinion, malheureusement bafoué dans ce pays sur Internet.
Et également, Amnesty International, bien sûr, s'occupe des victimes, essaye au maximum de leur venir en aide, mais elle s'occupe aussi des bourreaux, et on leur fait la chasse. Et notamment en Ouganda, où il y a un sinistre personnage du nom de Dominique Ongwen, qui est l'ancien commandant présumé de l'armée de résistance du Seigneur, tout un programme. Et cet individu va être transféré de manière imminente devant la Cour pénale internationale de La Haye. Et ça, c'est vraiment une étape vers une justice pour les victimes, parce que cette LRA, hein, l'armée de résistance du Seigneur, a eu recours aux enfants soldats, a fait des milliers de victimes, des atrocités en nombre. Et bon, il est un peu normal que ce sinistre individu se reçoive jugé, et ce qui normalement va être le cas.
Le 31 décembre 2014, en Russie, Artyom Savyolov a été libéré de la colonie pénitentiaire de la région de Ryazan, près de Moscou, dans lequel il était injustement emprisonné en raison de ses opinions et des manifestations de cette opinion. Alors à la sortie de prison, il a dit à Maria Sereda, qui est chargée de campagne du bureau d'Amnesty à Moscou, il a fait une déclaration en disant en parlant de ses conditions de détention déplorables dans cette colonie en Russie, le froid, la faim et les traitements inhumains, c'est comme cela que je les qualifierais en quelques mots. Il a remercié tous les gens qui l'ont soutenu pendant ces 30 mois de détention. Je suis de tout mon cœur reconnaissant pour chaque personne qui m'a soutenu. C'est la première chose que je veux dire. C'était tellement important de savoir qu'il y avait des gens qui m'attendaient ici et à l'extérieur. Cela aurait été tellement dur sans tout votre soutien. Voilà, c'est encore un témoignage d'un prisonnier libéré qui remercie tous les gens qui ont écrit pour lui, en sa faveur.
Et une bonne nouvelle aussi du côté de la Somalie, c'est la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui est donc un grand pas en avant pour les enfants et les générations futures. La Somalie est devenue le 195e État partie à ce traité. Il reste encore deux États, finalement c'est les États-Unis et le Soudan du Sud qui doivent encore confirmer leur engagement envers la protection de l'enfant en ratifiant donc ce texte très important.
En Sierra Leone, le président de la Sierra Leone a décidé comme ça de manière tout à fait arbitraire, je ne vais pas dire pour son bon plaisir, mais on n'en est pas loin, d'incarcérer 8 personnes, 2 femmes et 6 hommes, sous un prétexte de trouble à l'ordre public, en quelque sorte, on peut dire ça, dans des émeutes par rapport au virus d'Ebola. Et ils ont été incarcérés sans aucune motivation, aucune possibilité d'audience envers la police ou un juge quelconque. Eh bien, grâce à la pression, effectivement, internationale, et la pression notamment d'Amnesty International, ces 8 personnes ont été libérées.
En Syrie, Jadia Nofal, directeur du Centre pour la démocratie et les droits civils, et Omar Al-Shar, journaliste et traducteur, avait été arrêté du côté syrien de la frontière entre la Syrie et le Liban le 31 octobre, alors qu'il rentrait de Beyrouth. Les deux Syriens ont été détenus au secret pendant la majeure partie de leur détention. Un juge d'instruction a ordonné leur libération le 17 décembre 2014 et ils sont rentrés chez eux le lendemain. Voilà les bonnes nouvelles liées aux actions d'Amnesty et de tous les sympathisants d'Amnesty qui vont signer les pétitions et intervenir avec nous. Voilà, ça fait plaisir de voir que Amnesty, ça marche, et qu'on obtient des résultats, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire.
C'est vrai que c'est toujours l'éternel problème quand on écrit tous les jours, quand on signe des pétitions. On arrive à avoir des doutes. On se demande finalement tout ça, est-ce que c'est vraiment efficace? Alors, quand on voit effectivement ces résultats, et encore, on ne vous a donné que quelques exemples, mais par rapport à la masse d'individus qui, sur notre planète, sont aujourd'hui dans des conditions dramatiques, soit d'incarcération, soit de menaces d'exécution dans un avenir très proche, ça paraît peut-être pas grand-chose. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut lâcher prise. Comme je disais tout à l'heure, j'en reviens toujours à Pierre Raveil, la part du colibri, elle est importante. Et peut-être, ce n'est pas beaucoup ces quelques lettres, là, les 12 lettres que j'ai postées tout à l'heure, ça peut paraître rien. Mais non, justement, ce n'est pas rien. Le fait de signer une pétition sur Internet, on se dit, oui, des pétitions, il en circule des tonnes tous les jours, bon, c'est une goutte d'eau dans la mer. Oui, peut-être, mais quand il y a beaucoup de gouttes d'eau, ça finit par faire des rivières, des fleuves et des océans, et ça finit par porter. Et ce que l'on vient de vous dire, les exemples qu'on vient de vous donner, en sont bien la preuve.
Alors justement, Philippe Richardy, par rapport à l'investissement que ça demande, puisque vous vous mettez à écrire des lettres, ça va demander combien de temps par semaine, par mois, concrètement, pour venir en aide et écrire régulièrement?
Non, c'est pas grand-chose. Honnêtement, c'est pas grand-chose, parce que l'informatique étant là maintenant, les courriers nous arrivent prémâchés, en fait. Il suffit d'avoir fait une trame sur Internet, sur Word, par exemple, avec l'enseigne d'Amnesty. Il y a des cases qui sont prêtes à remplir et il suffit de faire des copier-coller. C'est extrêmement simple. On imprime, on ajoute sa signature, parce que l'on signe Manu Militari, on met dans une enveloppe, on expédie. Ça prend quelques minutes, c'est rien. C'est vraiment très peu de choses à faire. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Comme vous le disiez, Régis, autrefois, il fallait le faire à la main. Alors là, c'était effectivement autre chose. Avec un carbone, ça prenait du temps. Aujourd'hui, maintenant, grâce à la technologie, on peut faire ça beaucoup plus vite. Là, les 12 lettres, je les ai faites ce matin. C'est sûr que s'il avait fallu les faire à la main, ça aurait été un petit peu plus compliqué.
Après, dans les...
Oui, pardon. Encore une fois, on peut aussi signer les pétitions directement avec les clics de la souris. Donc,
oui, non, mais c'est le côté.
C'est vrai que ça permet aussi de faire une action, même si c'est vrai que d'envoyer des lettres directement, ça, comme on disait tout à l'heure, il y a une forme physique aussi. Qui n'est pas sur donc le site d'internet, mais encore une fois c'est pareil, c'est une petite action, mais s'il y a beaucoup de petites actions, ça finit par avoir un poids.
Alors, on est bien d'accord que le plus facile pour les gens, c'est de signer par internet un maximum pour aider ces personnes.
Voilà. Après, dans les 12 lettres que citait Philippe, il y a des... En fait, ça ne concerne pas 12 cas, mais chaque cas, il y a 2, 3 ou 4 lettres qui partent pour le même cas, puisqu'on fait des copies au directeur de prison, par exemple. On fait toujours une copie à l'ambassade. Donc, on envoie à l'ambassade à Paris, hein, l'ambassade du pays en France. Et je vous assure que les ambassades reçoivent énormément de courriers des membres d'Amnesty en France, et puis dans les autres pays du monde, les membres d'Amnesty font pareil, ils font des copies aux ambassades.
Oui, c'est pas pour 12 cas, donc ça peut être...
Non, effectivement, on peut, là, en l'occurrence, j'ai de mémoire comme ça, j'ai écrit en Israël, il y avait une lettre pour Netanyahou, il y en avait une autre pour un procureur général. Plus, il y avait deux copies, une à l'ambassade et une autre dont j'avoue j'ai oublié où elle est partie, parce qu'il y en avait beaucoup. Mais la question que je me suis posée quand j'ai commencé à faire ce genre de choses, ce que j'ai demandé à Régis, finalement, est-ce que l'on a des retours directs? Est-ce qu'il y en a qui nous répondent?
Oui, alors je lui ai dit, mets bien ton adresse sur le courrier, parce que ça arrive. Ça arrive des fois qu'un membre ou quelques-uns reçoivent une réponse. Il nous est même arrivé de recevoir une réponse par CD. Du, du, du Mexique, si je me souviens bien.
Alors j'attends toujours une réponse, j'ai encore rien reçu.
C'est posté ce matin, oui, ça va vite, mais peut-être.
Non, mais j'en ai expédié d'autres, quand même, c'est pas les premières.
Voilà, alors on va terminer par quelques nouvelles du groupe dinois. Donc demain, nous avons notre réunion du groupe à 18h, salle des associations à côté de la mairie de Digne. Nous allons faire notre assemblée générale et puis nous allons un petit peu parler de nos projets. Un petit peu présenter, faire une petite présentation d'Amnesty en général pour les nouveaux membres de notre groupe. Et alors dans les projets, on a des interventions en milieu scolaire, parce qu'on a réfléchi, on s'est dit que face notamment à l'actualité, et c'était bien d'aller vers les scolaires. Donc nous allons intervenir dans 3 établissements, le LEB Baudereau-Chasse, le Sacré-Cœur au niveau du lycée et le lycée Pierre-Gilles de Gênes. Et nous allons mettre une exposition qui s'appelle « Répondre à la violence du monde » et animer des débats avec les professeurs et les élèves sur justement comment, face à cette violence, comment répondre et en quoi ils peuvent aussi, en tant que lycéens, agir avec Amnesty International pour la défense des droits humains.
Ça, voilà. Ce sera quand ?
Alors, ça va être du 30 mars au 4 avril. Nous mettrons l'exposition au Sacré-Cœur et nous interviendrons 2 fois. Du 7 avril au 24 avril, l'exposition sera au LEB Baudereau-Chasse, où nous sommes intervenus aussi l'année dernière. Ensuite, il y a les vacances à partir du 24 avril. Alors, cette exposition, nous allons la garder encore un petit peu en mai. Donc, on cherche un espace pour la mettre pendant les vacances, peut-être à la médiathèque s'ils ont la place. Et puis, du 11 au 22 mai, notre exposition sera au lycée Pierre-Gilles de Gênes. Il y a 2 professeurs intéressés qui vont amener leur classe et nous allons faire des débats, parler aussi de cas à partir de cas concrets, quelles sont les violations, de quels droits sont concernés dans les violations, en quoi ça porte atteinte, à quel article, voilà, faire réfléchir et puis faire un peu mieux connaître ce qui est la base de notre travail, sur quoi nous nous appuyons, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui concentre tous les droits que normalement chaque être humain sur Terre devrait avoir. Voilà, donc pour nous c'est très important ces interventions en milieu scolaire.
Et c'est capital justement pour bien ouvrir les esprits pour ces jeunes.
L'éducation, tout passe par l'éducation, voilà. Bien sûr.
Et d'ailleurs, je serais ravie de venir lors de ces rencontres avec les élèves.
Oui, j'aimerais bien sûr. Nous te dirons exactement voilà. les jours de nos rencontres avec ces jeunes. Voilà, une nouvelle un peu qui concerne la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse. Nous allons faire notre assemblée générale de région, c'est-à-dire ça comprend l'ensemble des groupes, des cercles d'action, des antennes jeunes de la région. Nous allons faire notre assemblée générale cette année au Camp des Milles, avec le matin donc visite du Camp des Milles et l'après-midi le Camp des Milles nous prête une salle pour faire notre assemblée générale.
C'est peut-être bien de rappeler ce qu'est le Camp des Milles.
Oui, alors le Camp des Milles, très bien Philippe, merci. C'est donc un camp qui se trouve près d'Aix. C'était une ancienne tuilerie. Et un petit peu avant la guerre de 39-45, les autorités ont détenu les étrangers vivant en France. Et notamment beaucoup d'artistes, d'écrivains, de poètes, de peintres allemands. Notamment, qui ont fui le nazisme. Donc c'était des opposants à Hitler qui se sont retrouvés en détention, en fait, dans cette ancienne tuilerie. Et puis pendant la guerre, quand la guerre a commencé, Bien sûr, c'était des opposants, c'était des Allemands, mais des opposants. Et ils ont eu très peur que les nazis arrivent jusqu'au camp. Et quand les Allemands ont commencé à descendre la France, ils ont exigé, ils ont demandé au directeur d'être évacués. Et finalement, ils ont été évacués, mais bon, on ne savait pas trop. Ils sont partis vers le sud-ouest dans un train, mais c'est assez épique comme voyage. C'est raconté par un... Je vous apporterai le livre. Il y a un des Allemands, un écrivain dont j'ai oublié le nom, qui raconte cette histoire. Et ensuite, à partir du milieu de la guerre, ça a servi à l'État français de Vichy, hein, à regrouper les Juifs de la région pour ensuite les envoyer vers les camps de la mort. Donc voilà, c'est un lieu de mémoire très important et qui fait réfléchir sur l'ensemble des génocides. Hein. Ils travaillent donc bien sûr le génocide juif, mais ils travaillent aussi sur le génocide du Rwanda, sur le génocide arménien. Et donc on a pensé que c'était bien que les membres d'Amnesty découvrent ce site. Et voilà, c'était donc c'est porteur, ça va dans la démarche d'Amnesty International qui défend l'ensemble des droits pour toutes les personnes, quelle que soit leur religion, quelle que soit la couleur de leur peau. Voilà, dans la lutte contre le racisme, contre la ségrégation.
Il me semble qu'il y avait eu une exposition aux archives sur le camp des Milles récemment, non? Il me semble bien qu'il y avait archives à Digne.
En tout cas, c'est effectivement, ce site, c'est un lieu de mémoire, mais c'est un musée également, donc ça se visite. Mm-hmm. Hein, ça se visite, donc il ne faut pas hésiter, si vous passez par les Milles, à faire un petit détour. Ce n'est pas très loin de chez nous, en fait. Hein, et c'est quelque chose de très émouvant.
Voilà. Puis je terminerai pour vous rappeler que nous avons abonné la médiathèque de Digne à notre journal qui s'appelle La Chronique. Donc vous pouvez la consulter à la médiathèque. Et le numéro de février 2015 a un dossier sur les lanceurs d'alerte. Alors c'est très intéressant ce dossier sur ces personnes qui... qui ont alerté l'opinion publique sur des malversations qui se faisaient en douce, dans le secret. Hein. Et bon, c'est pas récent, là, on en parle beaucoup, mais c'est très ancien, en fait, les lanceurs d'alerte. On peut même penser que le créateur d'Amnesty International, c'est un lanceur d'alerte. Hein, Et puis, donc, on parle de tous les gens qui ont lancé des alertes en France, aux États-Unis, dans le monde, hein. Voilà, Alexandre Solzhenitsyn, hein, par exemple, écrivain russe qui décrit les camps de travail en URSS. Wendy Sen, ancien garde rouge, il dévoile les conditions de détention en Chine. Et puis, voilà, donc il y a bien sûr le cas récent d'Edward Snowden. Hein, et il y a un film qui va sortir qui s'appelle Citizen Four, qui retrace cette histoire de cet homme qui a eu le courage de dénoncer ce que... alors qu'il travaillait, hein, pour la NSA, sur les pratiques de violation massive des droits humains. Voilà, c'est un dossier très intéressant. Et puis, bien sûr, dans la chronique, vous avez 3 cas d'appel. Et si vous voulez, vous pouvez aussi écrire des lettres, comme nous faisons, pour ces personnes. Et vous avez aussi... Des livres qui sortent. Voilà, par exemple, Philippe disait qu'il travaillait bénévolement au Prud'homme. Il y a un livre qui sort qui s'appelle Au cœur des Prud'hommes, La justice du travail à la peine. Voilà, donc c'est une journaliste, Véronique Brocard, qui a suivi les audiences du tribunal des Prud'hommes de Paris. Elle en tire un récit poignant sur le monde du travail et sur ceux qui font vivre la justice sociale. Voilà, donc un journal que vous pouvez lire à la médiathèque. Et qui parle des droits humains.
Alors, oui. J'avais une petite chose à rajouter pour finir donc cette émission, c'est que si vous nous écoutez et que vous habitez dans les Hautes-Alpes, notamment aux alentours de Briançon, sachez que nous serons très heureux de vous accueillir dans notre cercle d'action. Voilà, on est un cercle d'action sympathique et qui vient de se créer, mais qui a beaucoup d'envie d'avancer et de faire des petites actions qui prennent pas forcément beaucoup de temps, mais d'être quand même présent donc aux côtés d'Amnesty. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, je vous laisse mon mail, c'est camille.coulange@hotmail.fr.
Alors Coulange,
voilà, Camille.Coulange,
Coulange qui s'écrit
C-O-U-L-A-N-G-E, @hotmail.fr. Voilà, et puis je vous répondrai le plus vite possible.
Voilà, d'ailleurs, on a réfléchi un petit peu avec Camille et on envisage une action commune, un film débat. Alors le film, ce serait Hop, qui parle de migrants. Comme intervenant, nous avons contacté Sylviane Artufel, qui est membre d'Amnesty, qui fait partie du groupe d'Aubagne et qui a l'habilitation réservée à Amnesty International. Vous savez que dans les centres de rétention, pour rentrer dans les centres de rétention qui regroupent les migrants qui ne sont pas en règle, il faut une habilitation et ces habilitations sont données par l'État à des associations, dont Amnesty. Et Sylviane Artufel a l'habilitation d'Amnesty pour visiter un des centres de rétention de la région de Marseille. Et elle connaît donc très bien la situation de ces personnes et c'est elle qui interviendra à l'issue de ce film. Donc on est en train de...
Voilà, ça devrait avoir lieu en avril ou...
Ou en mai, on va contacter les cinémas. Donc, le vendredi, ça sera à Digne. Et le samedi, ce serait à Briançon, si ça peut se faire.
À quelle date ?
C'est pas encore fixé. Voilà, c'est un projet, en fait. C'est un projet du Cercle d'Action et du groupe de Digne.
Eh bien, voilà. C'est le moment de nous quitter ou il y a d'autres nouvelles ?
Non, je pense que...
Je vais en profiter juste quand même pour lancer une petite alerte aussi qui n'est pas directement liée à Amnesty, encore que elle l'a évoqué dans son organe de la chronique, c'est justement sur les prud'hommes. Je tiens à alerter les salariés notamment, ce sont eux qui sont concernés, c'est que les prud'hommes sont en grand danger. En très grand danger, il y a une pression très forte, notamment du MEDEF, hein, bien sûr, ce qui ne traîne à personne, pour un travail de sape et une démolition totale des prud'hommes. Alors, ça serait quand même très regrettable parce que c'est aujourd'hui un moyen, je vais pas dire unique, mais presque, de se défendre vis-à-vis des abus qui peuvent exister dans le monde du travail. Et il y en a beaucoup. Donc, il faut pas lâcher l'affaire, il faut pas lâcher prise, encore une fois, et être très vigilant. Et quand il va y avoir des manifestations, parce qu'il y en aura organisées par les syndicats, sur les prud'hommes, eh bien, il faut leur prêter main forte. Il ne faut pas hésiter à descendre dans la rue dans ces moments-là.
Merci Philippe. Voilà, on va se terminer. Ben,
alors, on va écouter MC Solar. Oui. Ça me hante. Et puis, on se retrouve, Régis, le mois prochain.
Le mois prochain.
Le dernier lundi du mois, ce sera le 30 mars 2015 à 16h30 sur cette antenne avec un autre invité.
Oui, sûrement. On va essayer de venir chaque fois avec des invités.
Merci et bonne soirée à tous.
Merci,
au revoir.
Au revoir. Au revoir.
J'ai pris le cargo, arrivé au port, j'ai sauté dans le paquebot. Mais je te jure que c'est pas moi qui ai commis ce crime. Le procureur et l'avocat m'ont choisi comme victime. Je suis dans la cale avec des noix de coco. Je ne sais pas où je vais, dites-moi, où va ce bateau? Sur la mer, je perds pas terre et mer, je perds la terre, mer. Mal de mer, plus de repères, plus les pieds sur terre. Fier, je reviendrai pour me venger. C'est eux les coupables, bientôt les choses vont changer. Je suis comme mon ancêtre en 1730. Je pars sans savoir où, et ça me manque. Ça me rend, ça me rend, ça me rend, ça me rend. bateau. Je vois des trafics, import-export, connivence avec les flics. Toutes ces caisses sont l'épreuve de mon innocence. Au fond de moi, j'espère qu'on arrive en France. Les choses seront plus simples, c'est le pays des droits de l'homme. Je leur dirai tout ce qui s'est passé et s'il le faut, je nomme. À croire que le mal circule par bateau, c'est chaud. J'espère qu'ils n'ont pas un seul complice là-haut. Je suis parti sans visa, face à l'arbitraire, dans le but de revenir. C'est pas de l'adultère. Mais si on livre aux autorités que je viens de quitter, je me plante. J'ai peur qu'il y ait connivence, ça me hante. Il travaille à l'usine, le contremaître l'appelle Bamboula. Sa femme Fatoumata fait la cuisine aux gosses. Les courses et le ménage toute la journée, elle bosse. La télé est un trophée placé au centre du salon. Elle représente un horizon dans cette jungle de béton. Parfois je reconnais mes paysages au bois d'ébène. Et puis je retrouve le sourire comme les Watford et Holwen. C'est la banlieue, dans ce lieu il y a le banc. Sur le banc il y a les pagnes, c'est le banc des gens au banc. Je pense au baobab tout comme au cèdre de Liban. Faut qu'on en plante le béton brut, ça me rend. Et moi j'ai baissé les yeux. Sensation complexe dans le cortex. J'ai dessiné son sexe sur mon cahier de texte. Puis je me suis mis dans son groupe pour faire un exposé. Donc après les cours, parfois on se voyait. J'avais son téléphone et je lui téléphonais. Elle disait raccroche d'abord, ça voulait dire qu'elle m'aimait. Elle m'a tenu la main une première fois au ciné. Ensuite en sortant de l'école, et là j'ai halluciné. Puis elle m'a dit que ses parents avaient été mutés à Nantes. J'ai perdu ma belle plante et ça me rend. Après l'amour il est la tour. Et puis c'est troubadour. Freestyle, fake flow. Presque tous les jours il n'aime pas le système. N'aime que les BPM. Et parle de Benz, de BM et de N en bas des HLM. De femmes sexy, soirée dans des bars cosy. De Nicolas Sarkozy, de Ouzi dans le jacuzzi. De Zach, de Zup, de Smith et de Stup. De Chip, de Tuc, de Zik, de Strip, de Tease et de Truc de Luc. De balles dans l'estomac, de gars tombés dans le coma. De gars qui ont dans le trauma, qu'on les croit sortis du moment. Pas la peine de passer de pommade quand le peuple déchante. J'écoute ce qu'ils chantent et ça me hante. J'entends des motos arriver, puis des balles partir. Je connais pas ces gens, je veux pas mourir martyr. Pourquoi cette embuscade? Pourquoi ça peut parade? C'est comme Jalalabad, je ne l'ai à Bagdad. Le directeur de cast, il m'a donné le mauvais rôle. Personne n'épaule quand je tombe avec une balle dans l'épaule. Le sang me souille à cause d'une brouille, d'une magouille, d'une embrouille. Puis viennent des patrouilles pour ramasser les boules. Les boules me lancent quand ça balance dans l'ambulance pour l'hosto. Une victime innocente dans un monde de crosso. Dans cette nuit battante, je pense à ma maman m'attend. À cette mauvaise pente, à l'insulte et ça me hante. Voir Chétan au bloc opératoire. Quand le médecin a murmuré, il est trop tard. Le flash du ciel éthique me fait penser à l'au-delà. Ma hantise, voir l'électrocardiogramme, voilà. Dès lors je prie Dieu, ponctue tu paramènes. Jour de faire le ramadan, Pessah et puis carême. Mes yeux se ferment et pour ne pas voir le diable, mentalement j'ai l'Ave Maria en arabe. La vieille dame à la faune à louper. Time code décalé, Dieu soit loué. Je me concentre sur mes diplômes et qu'ensuite je rentre. Quand je pense à l'aide-soignant, je vois ma vie et ça me rend. Je vois ma vie et ça me rend. Drame, j'ai pris la balle. balles à cause d'une dame qui se faisait agresser par un groupe de kleptomanes. Je voyais qu'il la secouait près du distributeur. On m'a pris pour l'agresseur à cause de ma sombre couleur. Ça sent le sacrifice, plaidoirie de néophyte, avocat commis d'office. La décision justice dit que je vais payer à la place de mes 10 complices. Cette peine me peine, mais faut que je l'accomplisse. J'ai troqué mes examens pour mitarder par loi. Plus une double peine, interdiction de territoire. C'est avec un diplôme, un casier que je rentre. Erreur, j'ai des cierres, mais j'ai honte et ça me hante. Partir en conquérant, revenir en paria. Et croire que la justice ici-bas n'existe pas. Comment veux-tu que de retour dans le village je puisse aider les gens à qui j'ai dit garder confiance en partant. L'homme est animal, l'humanité est animalité. L'égalité non appliquée partout est une fatalité. Si je témoigne avec poigne, c'est que ça me soigne et m'éloigne de ce qui me rentre depuis Hippocagne et le bagne. Maintenant je pense à ma soutenance de thèse, au manioc que je plante près de ma case en terre glaise. Maman, ce diplôme me manque. T'aurais pu faire plus pour tous ces gosses et ça me hante. Ça me hante, ça me hante, ça me hante.